à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire portant sur la réforme 2024, avec aujourd'hui un regard croisé d'experts de chez SAP France, tant les enjeux autour du choix de vos solutions et les impacts sont fondamentaux sur ce projet. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à participer, plus de 1000, et on vous remercie encore une fois ce matin. Sans tarder, côté équipe, j'aurai donc le plaisir d'animer ce webinaire avec tout d'abord côté SAP France, Margot Vincent, experte solutions financiers risques.
Bonjour.
Et François Bourgeois, directeur commercial France financiers risques.
Bonjour à tous.
Un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui pour votre éclairage sur le sujet. Côté PwC maintenant, on a Christian Loisa, senior manager, expert SAP PwC Consulting Technology.
Bonjour à tous.
Et Marvin Doz, collaborateur senior, Indirect Tax Technology, expert invoicing et e-reporting.
Bonjour à tous.
Et moi-même, bonjour à tous, Laurent Poupois, associé en charge des activités TVA, techno et transformation. Pour la logistique, je vous rappelle que pour les questions, je vous les invite à les poser sur le chat. Nous avons d'ores et déjà reçu de nombreuses questions de votre part en amont de ce webinaire et nous en avons intégré quelques-unes dans notre présentation. Pour les autres, bien évidemment, posées au cours de la présentation et compte tenu du temps alloué, nous reviendrons vers vous ultérieurement avec nos commentaires. Aussi, pour finir, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de prendre quelques secondes pour compléter le questionnaire qui vous sera remis à la fin. En termes d'agenda maintenant, nous avons structuré cette session autour de quatre parties principales. Tout d'abord, un rappel toujours nécessaire des éléments clés de la réforme, notamment avec Marvin. On poursuivra par un focus sur les opportunités et enjeux d'un tel projet pour vos organisations avec Christian. Puis des éléments de contexte sur la tendance à la généralisation de ces programmes de real-time reporting en Europe et dans le monde avec François côté SAP France. Et on terminera enfin avec Margot qui nous présentera les solutions SAP existantes pour répondre à ces obligations, en particulier avec l'outil DRC, Document Reporting and Compliance, et sa petite démo. Si on commence maintenant ce webinaire sur les éléments clés de la réforme, pour débuter, je rappelle que cette grande réforme française s'inscrit dans le cadre d'un plan de modernisation de la vie économique des entreprises et du contrôle fiscal. Elle va impacter toutes les entreprises françaises, tout business confondu et quelle que soit leur taille. Cette réforme s'ajoutera également, je le précise, aux obligations actuelles du FEC ou encore de la piste d'audit fiable ou PAF qui a été maintenue et qui présente toujours pour la DGFiP, comme vous savez, un vif intérêt en cas de contrôle fiscal. Les objectifs maintenant de cette réforme, je les rappelle rapidement, ils sont au nombre de quatre. Le premier est celui de renforcer la compétitivité des entreprises. Le deuxième, piloter les actions gouvernementales en permettant de capter au fil de l'eau tous les flux des entreprises, non seulement les flux privés publics B2J, déjà obligatoires depuis le 1er janvier 2020, mais aussi l'ensemble des flux B2B et B2C, vente et achat. Le troisième est celui de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA par un ciblage plus pertinent des contrôles. Et enfin, grâce aux données acquises, comme vous savez, l'administration entend simplifier les obligations déclaratives TVA par un pré-remplissage des déclarations CA3. À noter que ces deux derniers objectifs sont importants car ils impliqueront chez vous et dans vos organisations une réflexion obligatoire gouvernance 2.0 de la TVA et plus largement de la fiscalité nécessaire pour sécuriser correctement la pré-réforme. Cela pourra passer notamment par une automatisation des processus déclaratifs, la mise en œuvre de solutions data autour de contrôles qualitatifs fiscaux TVA en aval d'échange de données, d'un paramétrage maîtrisé de vos outils ou encore de programmes, et c'est important, de change management sur la sensibilisation et la formation de vos équipes aux enjeux de la réforme. En termes de texte et de publication à date, je dis bien à date, autour de la réforme, nous les avons rappelés ici, outre les deux lois de finances 2020 et 2021 et l'ordonnance du 15 septembre 2021, l'administration a publié une V2 des spécifications externes au 31-12 dernier. Ces spécifications commentent, comme vous savez, non seulement l'ensemble du dispositif des obligations de invoicing et e-reporting, en passant par l'annuaire centralisé, les modes de connexion aux plateformes ou encore les principaux cas d'usage, mais également la présentation des différents format sémantique du socle minimum s'agissant des données transactionnelles et des informations connexes associées, les fameux flux F1 à F10.4. Gardez en tête aussi que la mission facturation électronique ou MFE continue ses différents ateliers de travail, grand public, technique ou sectoriel, avec l'ensemble des parties prenantes pour ajuster et arbitrer les conditions de la mise en œuvre de la réforme. Il est fondamental également de suivre ces ateliers, tout comme ceux du Forum national de la facturation électronique, qui regroupe les professionnels du secteur et auxquels nous sommes membres. Si on passe au slide suivant, côté calendrier maintenant, j'aurais bien aimé vous annoncer une bonne nouvelle, effectivement, et un nouveau décalage de la réforme, mais pas de mauvais poisson d'avril en ce matin, même s'il neige déjà. Donc, sur les dates d'entrée en vigueur, tout d'abord à droite de l'Afrique, côté exception, une obligation de réception par tous au 1er juillet, comme vous savez, 2024, de l'obligation de invoicing, quelle que soit la taille des entreprises. Puis côté émission, une obligation échelonnée entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2026, selon la taille des entreprises, au sens des critères INSEE pour les obligations de invoicing et de e-reporting. Deux points à noter. Un, sur la notion d'application des critères, je rappelle que les seuils devront être appréciés au niveau de chaque personne juridique ou unité légale d'un groupe, et ce, à partir des éléments issus de la déclaration de résultat du dernier exercice clos précédant la date prévisionnelle de l'entrée. Possibilité aussi, toutefois, pour des raisons stratégiques, de basculer les ETI et les PME-TPE avant leur propre deadline, si elles le souhaitent. À gauche maintenant de la frise, quelques points clés à retenir. En premier lieu, toute la difficulté d'un tel projet pour vous, acteurs et entreprises, les textes actuels sont encore en mouvement. Donc, des éléments sont encore en attente de publication, comme les prochains décrets et arrêtés, les modifications des BOFIP ou encore une nouvelle série de spécifications externes depuis la V2 actuelle du 31-12. Pour la V3, elle était attendue hier, elle est attendue peut-être aujourd'hui, ce week-end ou semaine prochaine, et devrait être présentée officiellement par la mission facturation et les prochains. Pour la V4, elle sera prévue le fin juin 2022. Aussi, sachez que la publication du fameux cahier des charges pour devenir PDP est toujours en attente. En deuxième lieu, nous soulignons également deux nouvelles dates importantes à garder en tête, que sont celles du 1er septembre 2023, avec l'ouverture des dossiers d'immatriculation pour les futurs candidats au rôle de PDP. Ceci sera précédé de la création par l'administration d'une page web dédiée au PDP en avril 2022. Et surtout, le 1er janvier 2024, avec le début d'un pilote de test auprès de la PPF, ouverte à un panel d'utilisateurs finaux, estimé environ à 300, regroupant des entreprises, des experts comptables, des éditeurs et prestataires de démat. Ce jalon du 1er janvier est fondamental. Il doit faire partie de votre roadmap de mise en œuvre afin d'ajuster au mieux votre rétro-planning et ainsi intégrer des phases clés en amont, telles que les étapes de diagnostic 360, dont on parlera par la suite, ou encore le choix de modèle de l'organisation cible, avec notamment, le cas échéant, les phases de RFI et RFP pour vos futurs PDP. Voilà, ce rappel terminé, je passe la parole maintenant à Marvin pour un focus plus détaillé sur les obligations de invoicing et de e-reporting.
Merci Laurent. Donc effectivement, comme Laurent l'indiquait, la France a fait le choix d'implémenter une obligation mixte composée à la fois d'une obligation de e-invoicing, mais également d'une obligation complémentaire de e-reporting, qui ont justement vocation à avoir un champ d'application complémentaire. Tout d'abord, en ce qui concerne l'obligation de invoicing, cette obligation-là n'a vocation à ne concerner que les opérations entre deux assujettis établis en France. Donc, l'élément clé est vraiment le fait que, à la fois, le fournisseur et le client doivent être établis en France pour que l'opération soit dans le champ d'application de l'obligation de invoicing. Donc, pour répondre à deux questions qui ont été posées dans le chat, une facture à destination d'une société étrangère ne sera pas dans le champ d'application du invoicing, tout comme une société étrangère qui serait simplement immatriculée à la TVA en France sans y être établie, ces sociétés-là ne seraient pas soumises à l'obligation de e-invoicing. Ces sociétés-là seront dans le champ d'application e-reporting. Donc, bien entendu, dans le cadre de l'obligation de invoicing, il y a certaines exceptions, certaines qui ont été présentées dès le début, notamment, et pour rejoindre la question concernant les banques, un certain nombre d'opérations qui sont exonérées de TVA en application de certains dispositifs du CJ, dont certaines opérations bancaires et financières, sont placées hors champ d'application de l'obligation de e-invoicing, ainsi que certaines autres opérations, comme des opérations qui pourraient présenter le caractère de secret national de la défense, mais également, par exemple, des livraisons de biens à destination des DOM qui ne seraient pas dans le champ d'application de l'invoicing, mais dans le champ d'application du e-reporting. Effectivement, donc cette deuxième obligation de e-reporting, qui en réalité peut être divisée en deux obligations, une première concernant des données dites transactionnelles, où côté vente vont être devoir transmis à l'administration fiscale des données transactionnelles liées aux ventes effectuées à un assujetti non établi en France. Donc, dès lors que vous avez un client étranger, à ce moment-là, des données de facturation devront être transmises à l'administration fiscale, tout comme également l'ensemble des opérations réalisées avec non-assujetti, et notamment les ventes B2C. Mais également, côté achat, l'obligation de transmettre des informations liées à la facture d'achat auprès d'un assujetti non établi en France, sous réserve de certaines exceptions, notamment tout ce qui est importation de biens. Là encore, pour ces opérations transactionnelles du e-reporting, vont être non soumises à cette obligation-là, les opérations exonérées en application du CJI qui bénéficient d'une dispense de facturation, donc certaines opérations bancaires, d'assurance, également certaines opérations immobilières, mais également tout ce qui présente un caractère de secret national de la défense. Enfin, la deuxième sous-obligation du e-reporting concerne la transmission de données non transactionnelles, et on va y revenir un peu plus en détail ultérieurement, sur le cycle de vie des factures et les données de paiement de certaines factures. Enfin, il est important de noter que les assujettis non établis en France peuvent également être concernés par l'obligation de e-reporting pour les livraisons de biens et les prestations de services, pour lesquels ils sont redevables de la TVA française, sous réserve de certaines exceptions, notamment en cas d'option pour le guichet unique. Donc, je vous propose maintenant de faire un premier focus sur l'obligation de e-invoicing, et dans un premier temps sur le schéma de e-invoicing français, qui est différent de celui qui a été mis en œuvre en Italie et qui va être implémenté en Pologne à compter du 1er juillet 2023. En effet, on voit dans le schéma de invoicing français que, outre les acteurs, donc vendeurs et acheteurs, certains acteurs vont obligatoirement intervenir dans le flux de transmission de la facture. Donc, deux acteurs obligatoires à l'horizon 2024-2026, soit le portail public de facturation, donc qui va être géré par l'AIFE, qui est en réalité Corus Pro, qui va évoluer pour englober les flux en plus des flux B2J, et qui aura vocation à offrir un socle minimum de services à titre gratuit. Cela devrait concerner l'émission et la réception de factures, mais également, comme l'AIFE l'a précisé à un certain nombre de reprises, l'archivage des factures, sous réserve notamment d'une question qui a été posée récemment par un sénateur au ministre, en ce qui concerne effectivement la possibilité d'offrir gratuitement, d'un point de vue droit à la concurrence, ces services d'archivage à titre gratuit. Et donc, outre le portail public de facturation, la possibilité pour les assujettis de choisir d'émettre ou de recevoir des factures au travers d'une PDP, donc plateforme de dématérialisation partenaire, qui là sont des acteurs privés qui vont devoir s'immatriculer auprès de l'administration fiscale, et comme Laurent l'introduisait, avec une ouverture des demandes d'immatriculation au 1er septembre 2023, au cours duquel ils vont devoir déposer un dossier justifié de certaines qualifications ou certifications, mais également dans les 12 mois suivant leur demande d'immatriculation, remettre un rapport d'audit comme quoi elles sont conformes à toute une série d'obligations qui vont leur être imposées. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, il n'y a pas encore de PDP sur le marché français, mais un certain nombre d'acteurs qui peuvent déjà envisager un positionnement pour devenir ou non PDP, et certains acteurs qui sont toujours dans la réflexion et dans l'attente d'éléments complémentaires de par l'administration fiscale, notamment d'un point de vue technique et de ce qui va être attendu réellement par toutes ces PDP. Outre, bien entendu, donc le schéma de invoicing français, la facture électronique de demain en invoicing va évoluer par rapport à notre définition de facture électronique actuelle. Tout simplement pourquoi ? Parce que la facture électronique en invoicing de demain devra obligatoirement contenir un nombre minimum de données sous format structuré. Donc des données qui sont traitables automatiquement par ordinateur sans être nécessairement lisibles directement par l'être humain. Donc ça veut dire que demain, les plateformes ne pourront plus s'échanger de factures sous format papier ou des formats PDF. On va retrouver des données dites dans le socle minimal, c'est-à-dire que toute plateforme en réception devra être en mesure de savoir réceptionner ces formats, donc deux formats 100% structurés, XML UBL et XML C2I, et un format mixte, la facture X, qui est en réalité couple UF associé à des données structurées XML. Ce qui est important également, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre de ces obligations, deux situations seront distinguées. La première, l'assujetti, le fournisseur ou vendeur, est en sous-traitance de l'émission de la facture par la plateforme partenaire. Et le deuxième cas, une émission directe de la facture par l'assujetti, donc on a une absence de sous-traitance de facturation. Et ce cas-là, c'est dès lors que le vendeur transmet à sa plateforme à l'émission une facture sous un des formats du socle minimal ou dans un format autre que celui du socle minimal, mais dans le format qui sera transmis au client. Voilà. Donc je vous propose maintenant de faire un focus sur une illustration du mode de fonctionnement de l'émission d'une facture dans le cadre du schéma de invoicing entre deux PDP. Donc vendeur aura choisi une PDP et acheteur a également choisi une PDP en réception. Donc tout d'abord, dans ce cas-là, et on a choisi de vous présenter l'illustration du cas de sous-traitance de facture, on a le vendeur qui va pousser à sa PDP des données de facturation sous un format structuré n'étant pas dans le socle minimal, donc pas XML C2I, pas XML UBL et pas FactureX, et dans un format qui n'est pas accepté par le client. La deuxième étape est donc pour la PDP de venir effectuer un certain nombre de contrôles, de cohérence, de structure des données qui lui sont transmises afin de valider ces données-là par rapport aux obligations réglementaires de demain, donc au format notamment sémantique et à toutes les contraintes de gestion et technique qui peuvent en découler. Donc deux cas, soit la PDP rejette ces données-là, soit la PDP valide et par conséquent vient convertir les données transmises par le vendeur dans soit l'un des formats du socle minimal, le flux F2, soit dans un autre format sous certaines conditions et donc là dans le flux F3. En troisième étape, finalement, donc qui est plusieurs flux différents, c'est une transmission du document de référence donc généré par la PDP à l'émission à la plateforme de l'acheteur. En parallèle, une transmission également au vendeur du document de référence pour archivage, c'est ce document donc en sortie de la plateforme à l'émission qui devrait être archivé par le vendeur, sous réserve bien entendu des offres de services qu'il aura contractualisées avec sa PDP qui pourrait archiver pour le compte du vendeur la facture. Et enfin, troisième transmission, une transmission au portail public de facturation des données attendues par l'administration fiscale qui sera in fine transmise par le PPF à l'administration fiscale. De son côté acheteur, donc la PDP a reçu le document de référence de la plateforme à l'émission. La plateforme en réception peut transmettre cette facture-là à l'acheteur, mais également, si l'acheteur le souhaite, peut également transmettre un lisible de la facture pour un peu plus de lisibilité, bien entendu, de cette facture-là par les différences opérationnelles de l'acheteur. Bien entendu, ce qui est important également, c'est la prise en compte des différents cas particuliers qui pourrait être, bien entendu, opéré. Donc, si nous prenons maintenant donc sur la slide suivante, voilà. Donc, bien entendu, au travers également de la mise en œuvre de cette obligation, de ce schéma de invoicing, l'administration fiscale entend également rendre obligatoire deux nouvelles mentions sur facture. Donc, quatre nouvelles mentions qui devraient être rendues obligatoires. L'option pour les débits, qui aujourd'hui est une mention recommandée mais non obligatoire. Le code pays de livraison de réalisation du service. À noter que l'adresse complète pourrait également être... On aurait également la nature de l'opération. Est-ce qu'il s'agit d'une livraison de biens, d'une prestation de service ou d'une opération double? À noter que par opération double, il serait entendu une facture qui, en fait, a des lignes de facture qui sont concernées par des livraisons de biens et d'autres par des prestations de service, et qu'on aurait une dichotomie selon des informations récentes entre les opérations dites mixtes d'un point de vue règles complexes en matière de TVA. Et enfin, dernière obligation, le numéro du CIREN client. Donc, ce qui veut dire à l'émission, donc bien entendu, une prise en compte de ces nouvelles données obligatoires également sur les templates de facture, mais également en réception, un enjeu de prise en compte de ces données-là et des données contenues du coup dans la facture pour déterminer le traitement de TVA, notamment la nature de l'opération, mais également l'option pour les débits, car bien entendu, ces informations-là vont être transmises à l'administration fiscale qui aura cette vision-là dans ces systèmes. Et outre l'ajout de ces nouvelles mentions obligatoires sur facture, il est important pour l'ensemble des assujettis qui vont être soumis à l'obligation de invoicing de prendre en compte le format sémantique qui va venir définir la structure de la facture, mais également prévoir un certain nombre de règles de gestion et de contraintes techniques liées d'une part à la cardinalité des données. Est-ce qu'il s'agit d'une donnée pouvant avoir un caractère multiple ou unique? Est-ce qu'il s'agit d'une donnée obligatoire ou facultative? Tout comme un certain nombre de règles de gestion associées et de contraintes liées à chacune des données. Par exemple, sur le numéro de la facture, certains caractères qui vont être interdits et d'autres qui seront donc autorisés, mais également une longueur du numéro de la facture qui va être limitée en termes de caractères. Donc, il est important pour les assujettis de prendre en compte, bien entendu, donc ce format sémantique dans le cadre de la mise en œuvre de ces obligations. Donc, si nous passons effectivement donc sur la slide suivante et un focus sur l'obligation de e-reporting, le e-reporting, donc on voit que également dans le cadre de l'obligation de e-reporting, nous avons donc les mêmes acteurs qui pourront intervenir, donc à la fois PDP ou le portail public de facturation, avec soit un raccordement direct au PPF pour transmettre des données en e-reporting, soit une transmission des données via une plateforme de dématérialisation partenaire qui transmettra les données au PPF et in fine à l'administration fiscale. À date, et selon les dernières discussions, mais qui devront être précisées dans une version ultérieure des spécifications externes, qui devrait arriver, une périodicité envisagée de transmission des données de 3 fois par mois dans les 4 jours suivant le 10, le 20 et le dernier jour du mois. Avec donc un format de transmission qui sera envisagé, qui serait sous format XML, ou dans certains cas, et on va voir juste la possibilité de transmettre des factures. Donc effectivement, donc si on fait un focus sur les modalités de transmission des données du e-reporting des opérations B2B et B2C, donc vraiment celles qui rentrent dans le champ d'application du e-reporting, donc celles qui ne sont pas dans le champ d'application du e-invoicing, et en ce qui concerne donc les données des transactions B2B, deux modalités de transmission, soit j'émets ou reçois une facture dans le socle minimal, XML-C2I, XML-UPL ou FactureX. Dans ce cas, il est envisagé la possibilité de pouvoir transmettre directement la facture, taille publique de facturation, d'extraire les seules données attendues par l'administration fiscale et de transmettre à l'administration fiscale ces seules données-là. Si en revanche, j'émets ou reçois une facture qui n'est pas dans le socle minimal, notamment une facture papier ou PDF, dans ce cas-là, je transmets au PPF directement les données attendu par l'administration fiscale, donc le fameux flux F10.1, avec donc toutes les contraintes qui sont associées. Côté achat, des discussions sont en cours en ce qui concerne la granularité des informations à transmettre, notamment à l'horizon 2026, où il était envisagé et serait toujours envisagé une transmission des données de ligne de facture à l'horizon 2026. Donc côté achat, un véritable enjeu pour pouvoir récupérer les données des lignes de facture, notamment en cas de réception de papier ou PDF. Côté opération B2C, trois modalités de transmission. Première, c'est j'ai mis une facture qui est dans le socle minimal. Dans ce cas-là, toujours, je peux transmettre la facture. Ou alors, transmission, émission d'une facture qui n'est pas dans le socle minimal. Dans ce cas-là, transmission de données de transaction allégée. Ou enfin, dernier cas, je n'émets pas de facture. Dans ce cas-là, ce serait des transmissions de données agrégées journalières à transmettre. Sur le slide suivant, nous avons également donc en parallèle l'obligation donc cycle de vie et e-reporting des données de paiement. Le cycle de vie qui a pour objectif à l'administration fiscale d'avoir une vision du traitement des factures par les assujettis, vendeurs et acheteurs, avec certains statuts obligatoires, le statut déposé et le statut encaissé, et côté vendeur, deux statuts, refusé et rejeté. À noter que toute facture entrant dans le champ d'application du e-invoicing sera dans le cycle de vie des factures. Outre cette obligation-là, l'obligation de e-reporting des données de paiement, donc qui devrait concerner uniquement le vendeur pour certaines opérations uniquement et uniquement donc les prestations de services pour lesquelles le fournisseur est redevable de la TVA. Donc dès lors qu'il y aurait autoliquidation de la TVA, on serait hors champ d'application de l'obligation de e-reporting des données de paiement. Pareil en cas d'option pour le fournisseur pour l'application de la TVA sur les débits. Dans ce cas-là, on est hors champ d'application de l'obligation de e-reporting des données de paiement. Les modalités de transmission envisagées sont soit je suis dans le champ d'application du cycle de vie, dans ce cas les données de paiement remonteraient via le statut encaissé, Et pour toutes les autres factures ou transactions, donc tout ce qui est notamment opération e-reporting, hors transmission de la facture au PPF, dans ce cas-là, une transmission via un flux dédié de e-reporting. Pour illustrer un peu plus concrètement le fonctionnement du cycle de vie du statut encaissé, on vous propose au travers donc de la slide suivante une présentation de la transmission du statut encaissé de la facture, avec donc le vendeur qui l'acheteur dans un premier temps qui met au paiement la facture et paye du coup le vendeur qui reçoit le paiement et transmet. Alors, si on regarde juste sur la slide d'avant, pardon, excusez-moi. Si le vendeur donc transmet au PDP le statut encaissé avec les données de paiement attendues, donc le montant payé, la date d'encaissement par l'acheteur, qui la PDP à l'émission va transmettre cela à la PDP en réception de l'acheteur, in fine à l'acheteur. La PDP à l'émission va également transmettre ces données-là au portail public de facturation qui les transmettra à l'administration fiscale. Bien entendu, il est important dans le cadre du statut encaissé et du e-reporting des données de paiement de manière plus large de sécuriser le lettrage des factures clients, ainsi que en prenant en compte les différentes typologies de cas de paiement des factures, par exemple des factures déjà payées, mais également en cas d'affacturage ou les différents modes de paiement, des modes classiques de type virement bancaire, mais également le cas échéant, des modes un peu plus complexes à mettre à paramétrer, qui pourraient être les effets de commerce, lettres de change et d'autres modes de paiement. Si on passe maintenant donc sur une deuxième illustration du cycle de vie, nous avons ici tenté d'illustrer donc le mode de fonctionnement du statut rejeté et refusé. Le statut rejeté qui a vocation à être lorsque la plateforme entend rejeter de manière automatique pour des raisons techniques la facture, donc relativement indépendant de la volonté de l'acheteur, et le statut refusé qui là pour le coup dépend vraiment de l'acheteur, et c'est lorsque l'acheteur entend refuser la facture pour des raisons métier, écart prix, écart quantité, des problèmes de qualité, tout simplement parce que la commande n'est pas arrivée. Dans ce cas-là, l'acheteur transmet à sa PDP en réception le statut, qui le transmet à la PDP à l'émission et le transmet au vendeur, pour que le vendeur, le cas échéant, puisse mettre en œuvre des correctifs, émission d'un avoir, d'une facture rectificative, et également donc la PDP en réception qui transmet ce statut-là au portail public de facturation, en vue de transmettre cette information-là au portail public de facturation.
En effet, les postes achat et vente, également appelés P2P ou O2C, regardez en détail pour identifier les points d'impact dans la mise en œuvre du e-invoicing et e-reporting, tout en ayant un regard particulier sur la gestion des référentiels qui sont également au cœur de la réforme et qui nécessitent une mise en qualité et harmonisation pour fiabiliser l'opérabilité des processus. Ceci est d'autant plus vrai dans des groupes ayant des paysages applicatifs hétérogènes, SAP, Oracle, Microsoft, Sage, qui ont lancé des démarches core model et qui s'appuient également sur des applications satellites comme des outils de e-procurement, Ariba, Coupa, pour assurer un flux end-to-end, par exemple. Regardons maintenant ces deux exemples de processus pour identifier les impacts à considérer. Si on passe à la slide suivante. Tout d'abord, sur le processus P2P, la première étape est de sécuriser les référentiels clés que sont le référentiel fournisseur et le référentiel article pour la livraison de biens et de prestations de services, mais pas que. Il faut bien anticiper la nécessité de revoir, par exemple, les types de pièces qui vont notamment nécessiter d'adapter chaque typologie de flux et bien communiquer la distinction entre facture commerciale, facture rectificative, facture d'acompte, facture autofacturée, etc. Une bonne illustration de ce potentiel impact côté processus de la norme, c'est la gestion des intercos pour des groupes qui ont mis en place des processus de mirroring posting, par exemple, c'est-à-dire des flux intercompagnies entre entités assujetties établies en France au sein du même groupe. En effet, le mirroring posting a été souvent optimisé pour limiter le temps passé sur l'administration des factures, notamment dans le cadre de sons de services partagés. Ce processus a souvent fait l'objet de réplication automatique ou semi-automatique de commandes de vente et factures de vente sur la base de documents d'achat en miroir. Ce processus doit en effet être adapté, car il sera nécessaire, avant d'enregistrer ces factures miroirs, de les communiquer aux plateformes certifiées avant enregistrement dans l'entité partenaire. Ceci est encore plus vrai dans le cas éventuel de désaccord entre les deux parties. Nous voyons bien ici la nécessité de revoir dans le processus des activités liées au traitement de commandes, à l'émission de factures, etc. Si on passe à la slide suivante, tout d'abord, nous pouvons par ailleurs également analyser l'impact sur le processus de vente jusqu'à l'encaissement. Nous retrouvons des enjeux autour du référentiel client, évidemment, qui n'est pas en fonction des secteurs le référentiel le plus harmonisé ainsi que le référentiel article. Le e-reporting nécessite, comme indiqué préalablement, de communiquer les informations sur le statut de paiement de facture. Il sera alors possible de se retrouver dans des situations où on envoie à une PDP le dépôt d'une facture indiquée comme non payée, qui pourrait créer un conflit de statut de paiement avec le partenaire qui aurait indiqué la facture comme réglée. Nous identifions ici la nécessité de renforcer le processus de rapprochement des encaissements, ainsi que de mettre en place des contrôles supplémentaires sur les données de facturation et de paiement. Ce scénario devient encore plus complexe en cas de rejet ou paiement partiel. Il faut d'ailleurs renforcer les étapes d'archivage dans le processus.
Oui, merci beaucoup Christian et Marvin pour ces éclairages pratiques sur les enjeux de la réforme. On peut passer maintenant à la deuxième partie du webinaire sur les opportunités et enjeux d'un tel projet pour vos entreprises. Alors tout d'abord et avant toute chose, nous tenions à rappeler que cette réforme est un projet fondamental, ce n'est pas un nice to have, pas de place à la stratégie fiscale. Une absence de conformité impliquera automatiquement différents niveaux de risques fiscaux et opérationnels pour vos entreprises, et notamment un risque évident de ne plus être payé par vos clients qui n'accepteront plus vos factures, une application d'amende en invoicing ou reporting dont les quantums ont déjà été, vous savez, publiés, un durcissement et une récurrence des contrôles fiscaux à venir, ou encore une rupture de la relation de confiance pour ceux concernés et un risque opérationnel évident et réputationnel.
En effet, il ne faut pas uniquement considérer le projet de mise en place de invoicing et reporting comme un projet de conformité. C'est également une opportunité pour créer de la valeur supplémentaire pour les métiers finance, pour gagner en efficacité opérationnelle et sans doute pour permettre le développement de stratégies de CSP. C'est aussi la possibilité d'accélérer sur la transformation digitale en limitant le temps passé sur l'administration de factures. Nous voyons également l'opportunité d'améliorer le pilotage financier et fiscal en ayant une vision transverse des opérations entrantes et sortantes réalisées. Le pilotage de la performance continue à être dans le top 3 des priorités des directeurs financiers. En raison du détail donné transmis à l'administration qui aura une vision plus fine des opérations réalisées et plus globale, il est nécessaire d'anticiper au maximum les contrôles fiscaux et lancer des démarches de contrôle interne et de contrôle TVA en complément des contrôles qui pourront être proposés par les opérateurs privés. Cette transformation permettra in fine de réduire les coûts liés à la gestion administrative de factures. C'est pourquoi des multiples enjeux sont clés pour assurer la réussite du projet e-invoicing e-reporting. En effet, il existe 4 enjeux majeurs vis-à-vis de ce type de projet. Ces éléments sont à évaluer en fonction de la maturité et l'expérience de l'entreprise. Pour vous rassurer sur ces enjeux, ils sont souvent déjà pris en compte, surtout si dans vos expériences passées, vous avez déjà réalisé des projets de type ERP, SAP, S4, Oracle, Microsoft ou de DMAT, CGDIM, Pagero, BIM par exemple. Les premiers enjeux sont les enjeux fiscaux. Ils sont les plus fréquemment couverts dans votre organisation par la mise en place d'une piste d'audit fiable, par la fiabilisation des données en relation, bien entendu, avec les reportings fiscaux et le paramétrage de contraintes techniques. Ensuite, vous devez, dans votre projet, prendre en compte les enjeux IT et data. Vous devrez vous assurer que vos processus et vos référentiels sont en adéquation avec les champs et segments nécessaires à la génération du invoicing et du reporting. Bien entendu, comme tout projet, l'importance de la donnée et sa cohérence doivent être sécurisées en amont pour assurer la correcte alimentation des éléments de facturation et des données à reporter auprès de l'administration fiscale. Pour ce qui est du troisième enjeu, il est important de retenir les éléments suivants pour préparer. Dans un premier temps, adapter les processus existants en fonction de la cible et avoir recours à une plateforme certifiée, qu'elle soit publique ou privée, Traceshift, Esquire, Generic, Citesoft, Bentia, etc. Dans un second temps, s'assurer de la continuité de vos activités au travers d'un pilotage des processus et de la performance des opérations. Dans un troisième temps, pourra mesurer les cas métiers particuliers pouvant être facteurs de complexité vis-à-vis de l'effort de changement. Pour terminer, l'un des enjeux les plus importants et structurants pour la réussite de votre projet, c'est l'organisation et les ressources impliquées. Parmi elles devront être conviées la fiscalité, le juridique, la finance, les achats, le contrôle interne. Sans eux, et sans ces étapes, actions et phases, les projets ne pourront pas être menés à bien. Il faut donc anticiper un projet en plusieurs temps. En effet, les enjeux de la réforme s'orientent autour de quatre phases assez classiques pour ce type de projet. Tout d'abord, lors de la phase 1, dès 2022, nous préconisons la mise en place d'un diagnostic 360 de votre existant, permettant d'évaluer la maturité de votre organisation et des principaux enjeux précités. Ensuite, lors de la phase 2, entre 2022 et 2023, nous préconisons de faire le choix du meilleur modèle de plateforme à mettre en œuvre. Puis, lors de la phase 3, dès fin 2023, c'est de mettre en œuvre le projet et s'assurer que le choix du modèle retenu reste conforme jusqu'à la mise en production. Nous conseillons souvent d'anticiper la mise en production par la mise en place de contrôles automatisés, d'outils de suivi de type intelligence artificielle ou de robotisation via de la RPA, pressage du projet. Enfin, il est nécessaire, après le démarrage en 2024, de mettre en place un suivi récurrent des contrôles de type continuous monitoring de votre plateforme.
Oui, Christian, je regarde sur le chat et on a une question posée et qui revient souvent. Faut-il considérer ce projet comme un projet de démat classique?
Bonne question, merci Laurent. Non, ce n'est pas un projet de dématérialisation classique, c'est un projet de conformité à fort enjeu de transformation. Il faut en effet être en capacité de capitaliser sur des fonctionnalités de dématérialisation classique pour le e-invoicing, avec notamment la prise en compte des nouveaux formats structurés à communiquer dans le socle minimum, par exemple, mais surtout, il faut monitorer l'ensemble des flux entrant sur la communication avec les PDP et PPF, en mettant, si possible, en place des plateformes dites de middleware pour faciliter et assurer le démarrage en 2024 et se préparer aux contrôles fiscaux post-réforme.
Merci beaucoup, Christian. La dimension projet a été présentée. On peut poursuivre maintenant sur la troisième partie, tendance à la généralisation, et notamment avec le regard croisé de François côté SAP. Mais pour commencer, on vous a présenté une carte qui illustre le fait finalement que l'implémentation, comme vous savez, des obligations d'invoicing et reporting en France n'est pas un cas isolé. En Europe notamment, nous observons depuis maintenant quelques années une tendance à la généralisation de ces obligations. L'Italie, depuis 2019, a introduit déjà une obligation d'invoicing et l'Espagne ou encore la Hongrie, depuis plusieurs années, ont déployé une obligation de e-reporting. Par ailleurs, on note que de nombreux États européens envisagent ou sont en train d'implémenter de nouvelles obligations, la Pologne à partir de juillet 2023, ou encore l'Allemagne ou la Belgique qui réfléchissent aussi. On a aussi l'Espagne qui devrait aussi compléter prochainement son obligation de e-reporting S2I de 2017 par une obligation de invoicing. En parallèle, je terminerai sur le fait qu'on peut rappeler que a été initié au niveau européen des travaux de réflexion autour d'une certaine harmonisation et dont les contours se dessinent peu à peu. Une résolution récente du Parlement européen du 16 février dernier a commenté ce en militant en faveur d'une norme européenne de facturation électronique, ceci afin de faciliter l'interopérabilité transfrontalière, garantir le respect des différentes réglementations, accroître la transparence des opérations commerciales et, partant de là, limiter les fraudes et les erreurs. Toutefois, en attendant, cette tendance actuelle de généralisation présente un véritable enjeu et souvent des difficultés pour les groupes internationaux dès lors que chacun des États implémente son propre modèle, incluant local. Donc, ces initiatives locales poussent donc les groupes, comme on le voit, à adopter ou à devoir adopter des modèles et des solutions permettant une certaine harmonisation au niveau européen. Peut-être François.
Oui. Merci beaucoup Laurent et Christian Marvin aussi après cette excellente clarification de la réforme et aussi des impacts sur les processus tant order to cash. Alors vous l'aurez compris, hein, nous sommes actuellement dans la période de diagnostic pour vous entreprises comme l'évoquait Christian précédemment. Mais étudions maintenant comment il sera possible de l'implémenter dans les systèmes d'information, notamment avec SAP. Alors nous proposons chez SAP une solution éprouvée dans plus de 38 pays, ça change même tous les mois, mais bon, actuellement c'est 38 pays, qui ont déjà fait le pas vers le invoicing. Notre proposition de valeur se situe dans la capacité à unifier et mutualiser ces flux, tout en apportant bien évidemment une expertise applicative et réglementaire pour chaque réglementation locale. Dans chaque pays du monde, on souhaite numériser ces processus de reporting et de facturation. On n'est pas les premiers, vous l'aurez compris. Mais évidemment, tous ces pays ne sont pas au même stade et ne suivent pas le même chemin, et d'ailleurs pas la même vitesse non plus. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est que de nombreux pays tentent d'établir des contrôles continus sur des transactions, c'est-à-dire qu'ils veulent des données détaillées au niveau transactionnel. Au niveau mondial, en fait, pour simplifier, au niveau mondial, on voit trois raisons principales à cela. La première étant que les autorités comblent pour des raisons qui sont assez évidentes, je pense, pour eux. La deuxième et la troisième raison étant qu'un processus numérique efficace pour la fiscalité représente un gain de coût et de temps non négligeable pour les gouvernements, mais surtout aussi pour les entreprises. Donc, sur cette carte qu'on a ici à l'écran, nous avons indiqué tous les pays qui sont couverts par SAP. Comme vous pouvez le constater, environ la moitié des pays sont marqués en orange. Ces pays ont à la fois des scénarios d'échange de documents électroniques et des exigences périodiques qui sont déjà couverts par notre solution SAP. Mais comme vous pouvez le constater, certains pays sont en bleu, il y en a même un en vert, car ils se trouvent essentiellement à différentes étapes de leur processus de numérisation et ont des stratégies différentes. C'est-à-dire que les pays en bleu n'ont pour l'instant que des exigences légales en matière de reporting. Examinons maintenant cette frise reprenant les différentes étapes de la numérisation qu'on observe aujourd'hui dans le monde entier. Alors, une taxe standard. Première évolution, point numéro 2. Que nous appelons ici online form. Au lieu d'envoyer ces formulaires par email, les gouvernements peuvent proposer un portail sur lequel les entreprises vont saisir manuellement les données. Troisième évolution, qu'on appelle ici e-file, les entreprises vont un pas plus loin. Elles fournissent les fichiers au format électronique qui sont soumis sur un portail ou de système à système selon les pays. Cela dit, les niveaux 1 à 3 sont basés sur des données agrégées. L'étape 4, qu'on appelle ici e-audit, ajoute un autre niveau de détail, les transactions individuelles. Mais cette information doit encore être communiquée périodiquement. Alors, le niveau suivant d'évolution, c'est la facturation électronique, qu'on appelle e-invoices ici. Nous ajoutons donc une nouvelle dimension, une plateforme pour échanger efficacement des documents entre les entreprises et les pouvoirs publics, dans le rôle de partenaires qui achètent et vendent des produits, ainsi qu'entre les entreprises elles-mêmes. Donc, une piste numérique, mais pas encore connectée aux autorités du point de vue, d'un point de vue auditeur, d'un point de vue audit, si vous voulez. Cette connexion est introduite avec la comptabilité électronique, qu'on appelle le e-accounting, ici à l'écran. En quasi-temps réel, une société doit envoyer une copie du document électronique à l'administration fiscale, qui dispose désormais d'une copie numérique des données transactionnelles. Septième étape, sur la droite, donc e-clearance et e-distribution. Septième évolution, ça va encore plus loin. Avant d'envoyer la facture aux autorités, l'expéditeur doit obtenir l'autorisation des autorités, prouvée par un ID par exemple, ou même les autorités elles-mêmes distribuent le document électronique. Donc, nouveau niveau de sécurisation et de fiabilisation. Alors, à partir de là, il ne s'agit que d'une petite étape jusqu'au dernier niveau, qui est tout à droite de l'écran, la vérification électronique. Les autorités ont déjà toutes les données, mais aucune taxe n'a encore été déclarée ou payée. À partir de leurs données sources, L'administration, à partir de ces données sources, pardon, qu'elle récupère automatiquement, l'administration peut créer une déclaration périodique et déterminer elle-même la charge fiscale. L'entreprise n'a plus qu'à accepter la version préliminaire. C'est ce qu'on prépare en France. Alors, pour résumer, indépendamment de la phase dans laquelle se trouve un pays, une solution globale doit pouvoir couvrir toutes ces variantes. C'est ce à quoi on s'efforce chez SAP. Et puis, la tendance est claire. Les nouvelles réglementations se déplacent inévitablement vers la droite sur le schéma qui est à l'écran. C'est pourquoi notre offre SAP prend déjà en compte, évidemment, cette approche.
Merci beaucoup, François. Et pour terminer ce webinaire maintenant, et je m'en excuse par avance, Margot, on va plonger avec toi dans la mise en œuvre des projets avec SAP, notamment votre solution SAP Document and Reporting Compliance ou DRC, utilisée pour répondre aux réformes. Merci à toi.
Je ne me trompe pas, on va lancer la vidéo en premier, du coup, par rapport au temps.
De SAP Document and Reporting Compliance, que nous allons commencer dès à présent par la création d'une facture SD sortante, donc une facture client dans le cadre de l'Italie. Donc là, on se retrouve directement dans notre ERP SAP S/4HANA, dans une tuile donc, qui me permet de créer des billing documents que vous devez déjà connaître. On va ensuite poster cette facture et du coup le process flow va être mis à jour, mais également le cockpit de génération de documents électroniques, puisque la facture électronique pendante à cette facture, à ce document source, va automatiquement être créée. Je vais donc pouvoir l'envoyer ensuite à mon client, qui passera, donc sachant que dans un scénario italien, on va passer directement par la plateforme gouvernementale qui enverra ensuite la facture électronique à mon client. Je vais pouvoir ensuite aller observer donc les différents fichiers XML qui ont été créés au cours du processus, donc à chacune de ces étapes, et ensuite basculer là sur les scénarios de facture entrantes. Donc en effet, j'ai reçu deux documents que je vais pouvoir display au format HTML ou bien au format PDF. Donc ça, ce sont des factures de mes fournisseurs. Donc là, je vérifie que ma facture électronique correspond bien à quelque chose que je connais. Et effectivement, celle-ci, c'est bien le cas. Donc je vais pouvoir l'accepter. Et donc elle sera créée automatiquement dans mon ERP. Ici, on se retrouve dans mon dashboard de pilotage global, donc qui me permet de contrôler à la fois la partie e-reporting et la partie e-document. Et là, ça me donne une indication comme quoi il y a un document qui a besoin d'un traitement sur la partie Italie. Et effectivement, c'est la facture que j'ai envoyée à mon client qui n'a pas été acceptée par celui-ci. Et donc, tout simplement parce que directement dans le fichier XML qui a été rejeté, il doit sûrement y avoir une information qui fait que le document est invalide. Et en effet, on voit bien que le code destinataire donc, que nous avons renseigné directement dans l'ERP au niveau du billing document, le WSDDHY, n'a pas été trouvé, n'est pas valide. Il va donc falloir venir le modifier directement dans l'ERP. Et ça nous prouve bien qu'il faut avoir une master data qui soit propre pour que DRC puisse fonctionner correctement. Je vais donc annuler mon document électronique et évidemment venir annuler le document source également pour pouvoir master data, donc le code destinataire, et ensuite venir de nouveau recréer un billing document et automatiquement le document électronique au bon format cette fois-ci. Donc là, je vais de nouveau basculer ensuite dans mon dashboard de pilotage. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la partie e-reporting, toujours dans le scénario italien, avec notamment la déclaration TVA, puisqu'elle demande apparemment certaines actions donc de ma part, puisque là, je suis plutôt un Global Tax Manager. Donc c'est pour ça que là, j'ai une vue donc non filtrée par pays. Donc là, je vais filtrer volontairement sur l'Italie, en sachant que vous allez reprendre évidemment les rôles d'autorisation disponible dans votre ERP. Et donc là, j'ai cliqué sur ma déclaration de TVA sur la période de report du 1er avril au 30 juin et j'ai deux tâches à effectuer pour pouvoir la compléter. Donc là, je vais pouvoir manager mes tax items et je vais choisir d'exclure celui-ci, donc qui correspond en fait donc au billing document qui n'a pas été validée. Donc là, je dois attendre des corrections, notamment au niveau de la master data. Donc je ne veux pas encore le comptabiliser au niveau de mon report. C'est logique. Et donc là, je peux venir l'exclure vraiment à la maille lors de la création du report. Et effectivement, je retrouve bien le commentaire que je viens d'effectuer. Ensuite, je vais pouvoir, au contraire, rajouter donc des tax items. C'est-à-dire que je peux sélectionner les documents pour les inclure. Donc là, je vais choisir la période dans laquelle je veux les inclure. Je vais venir sélectionner le document qui sera ensuite associé à mon report du mois de juin, puisque on a eu un late posting. Voilà, et donc il a été rajouté vraiment lors de la création du report. Si je peux passer sur le tax item view et revenir sur le document header view. Sachant qu'évidemment, généralement, on ne modifie pas le report lors de sa création, mais c'est pour vous montrer, encore une fois, dans un demi-scénario, que c'est tout à fait possible de le faire. Une fois qu'on a managé nos tax items, on va pouvoir considérer que la tâche a été complétée. Donc, on va passer à la seconde, qui est vraiment la création de la déclaration TVA. Donc, à partir d'un run, on va lancer le run, on voit qu'il est en process. On a ici une piste d'audit qui est fiable. Donc, on voit la date de génération, la personne qui l'a générée. Et donc là, si on fait de nouveau un refresh, on va voir que le report a bien été généré avec succès. Et donc, si je clique sur cette ligne, je vois que la déclaration de TVA italienne a été générée au format XML correspondant à ce que demande le gouvernement. Et ici, j'ai une vue analytique qui me permet tout simplement d'aller dans le détail de mes données de taxes, donc, et en les croisant avec énormément de dimensions. Donc, on a vraiment une vue un peu de table croisée et à partir de laquelle je peux aussi faire des drill down et donc navigate to the journal entry par exemple et redescendre de nouveau dans le RP et dans les documents comptables afférents. Et donc là je retourne sur la création, donc la déclaration de TVA qui a été créée et je vais venir corriger du coup éditer le montant, parce que oui, il est possible de le faire ici aussi, même si en pratique, ça ne se fait pas. Sachez qu'il est possible de le faire. Donc là, pourquoi j'augmente le montant? Parce que je suis venue rajouter le fameux document qu'on a rajouté lors de l'étape précédente. Donc, on va venir modifier le montant total. Voilà, donc là, je peux retrouver évidemment un log qui me montre bien que toutes ces étapes sont suivies. Il y a un audit trail, une piste d'audit qui est fiable. Je peux également avoir aussi un change log avec de nouveau des informations sur tous les changements. Et ici, je vais pouvoir venir uploader donc le XML de ma facture électronique qui a été refusée par le client pour justifier cette modification de montant. Donc là, maintenant que mon report est correct, je vais l'envoyer pour approbation à mon manager. Donc si besoin, il y a vraiment des workflows d'approbation qui peuvent être créés. Donc là, je vois bien que le statut a été modifié. Donc, on attend que le directeur des taxes valide mon report. Donc là, on est dans la peau du directeur des taxes qui a reçu dans sa boîte mail le report. Il va venir ouvrir du coup la tâche. Ouvrir le report. Donc, vérifier effectivement le pourquoi du comment concernant les modifications de montant. Il va descendre, il va se rendre compte de l'augmentation à 18 860,20 et il va pouvoir approuver ou non en ajoutant une note, donc là, en disant qu'effectivement, Cette modification est approuvée par la correction donc, est legit, donc elle est légitimée. Le report est validé par le Global Head of Tax. Donc le statut peut être modifié et on peut considérer que le content a été accepté par le gouvernement. Et donc que la déclaration de TVA a été complétée. Voilà, donc la gestion d'un exemple de report dans DRC aujourd'hui.
Voilà, je vais reprendre la main avec voilà pour donc à la suite de cette vidéo, donc pour donc qui montrait l'outil. Donc SAP Document and Reporting Compliance avec lequel nous allons couvrir donc comme on a pu vous l'expliquer donc avec François et avec nos collègues de PwC à la fois le cadre et les réglementations légales pour la France mais pas que comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc comme François l'a expliqué, on couvre pas une trentaine de pays mais bien 51 actuellement et c'est toujours en cours d'évolution comme on peut le voir avec le slide à l'écran donc qui là représente le slide de roadmap solution donc avec notamment dans la partie Q4 2022 and beyond, et effectivement la France avec la partie à la fois invoicing et e-reporting. Donc pourquoi on n'est pas avant, dans les colonnes d'avant, parce qu'évidemment il y a d'autres, on se cale sur le calendrier réglementaire global, donc par exemple vous le savez très bien, il y a le Safety Roumanie qui est demandé pour juillet 2022 par exemple. Et donc c'est bien avec cette solution-là que couvrir tout l'ensemble des besoins réglementaires à la fois sur la partie reporting et la partie invoicing pour dans le cadre de la DMAT 2024. Donc si on passe au cadre suivant, au slide suivant, pardon. Je vais justement focaliser un petit peu donc dans le temps qui nous reste sur certaines questions que vous pouvez vous poser. Donc on en a vu certaines dans le chat. Je vais les reprendre également celles que j'ai l'habitude d'entendre évidemment sur cette solution appliquée dans le cadre franco-français, notamment de la loi 2024. Alors à savoir que c'est une solution, donc là on n'a pas eu le temps de rentrer dans le détail avec des slides, mais c'est une solution qui fonctionne forcément avec, donc qui n'est pas une solution agnostique, qui a besoin donc d'un ERP soit SAP S/4HANA, soit ECC, en sachant qu'il y a quelques limitations dans lesquelles nous pourrons revenir en détail sur ECC si vous le souhaitez, si vous revenez vers nous évidemment. C'est une solution qui sera potentiellement une PDP également, mais comme l'ont expliqué donc mes collègues de PwC, les ouvertures pour obtenir les certifications, des demandes de certification n'adviendront que en 2023, mais évidemment c'est le positionnement d'SAP, donc à confirmer ensuite avec le gouvernement. À savoir que évidemment SAP participe également à des ateliers de travail, comme vous pouvez le faire avec le gouvernement, mais nous du côté software, donc en fait on a notamment des versions de travail sur les spécifications techniques et non plus les spécifications fonctionnelles. Donc actuellement il n'y a pas le contenu spécifique qui a été développé et déployé directement sur la plateforme et développé en standard parce que nous sommes encore qu'à des premières versions de travail avec le gouvernement. Et donc évidemment, nous vous tenons informés donc en temps réel à chaque fois des différents avancements. Donc par exemple, il y a des questions sur le format de facture, donc XML, UBL, Facturic, etc. Tout ça n'a pas encore été arrêté par le gouvernement, par exemple, mais nous travaillons vraiment quotidiennement avec eux et avec vous également pour répondre à toutes ces spécifications techniques. Il y a également donc des questions sur à chaque fois, est-ce qu'on pourra proposer un module complémentaire qui soit en dehors de DRC pour répondre à l'émission réception des formats au socle minimal. Donc non, effectivement, on pourra toujours produire réduire, bien sûr, ces formats, évidemment. C'est ce qui se fait déjà actuellement au format XML dans les ERP. Mais l'émission et la réception, donc au format électronique, devra nécessairement passer par DRC chez SAP. Ensuite, quid de la gestion des statuts du cycle de vie des factures. Donc là encore, c'est une des spécifications, c'est-à-dire les statuts qui vont être intégrés directement dans la solution. Une des spécifications techniques que le gouvernement va mettre en place au fur et à mesure, parce que certains statuts seront obligatoires, donc ces statuts obligatoires seront évidemment couverts par la solution, d'autres statuts seront non obligatoires, et donc dans ce cas-là, ce sera ensuite une question de R&D tout simplement chez nous, de savoir si on intègre tous ces statuts qui ne sont que facultatifs. Mais là encore, le gouvernement n'a pas arrêté sa décision sur les statuts obligatoires versus facultatif. Et ensuite, la dernière mais non des moindres question, donc qui est plutôt le niveau de coût à anticiper sur les licences de DRC. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la métrique a changé et qu'on est maintenant passé à l'entité légale, notamment sur SAP S/4HANA. Mais alors que sur ECC, on reste sur une métrique au nombre de documents, mais ce qui réduit considérablement le coût, puisque généralement vous n'avez qu'une seule entité légale qui communique avec le gouvernement. Que ce soit pour envoyer des factures électroniques, des documents électroniques ou bien des reports périodiques à la fin du mois, donc que ce soit la déclaration de TVA ou bien les reports spécifiques dans le cadre de la loi donc 2024 sur les achats internationaux. Voilà.
Merci infiniment Margot pour ces explications et ton agilité, surtout compte tenu du temps réduit alloué. Je m'en excuse par avance. Nous avons maintenant terminé cette présentation. Nous espérons avoir pu vous éclairer. Comme vous voyez, au-delà des enjeux, différents enjeux en matière TVA, gouvernance, orga, data process, les impacts IT de la réforme à travers la gestion de vos partenaires, mais surtout aussi de vos ERP, tels que SAP et leurs solutions associées DRC, est un point majeur. C'est pourquoi, et je le répète, et nous le répétons, il est fondamental d'anticiper dès maintenant la réforme en mode projet pour, un, se mettre en conformité et vous permettre de poser clairement un diagnostic. Profitez aussi, comme disait Christian, d'identifier au cours de ce projet, de nouvelles opportunités pour vos organisations en termes de transfo ou de gouvernance 2.0 de la fiscalité. Encore un très grand merci pour votre écoute. Merci Marvin, Christian et surtout Margot et François pour leur témoignage enrichissant. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Au revoir.